Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne dans notre émission Histoire de France. Et d'ailleurs, en compagnie de René-Joseph Firmana, aujourd'hui, on va parler de Honoré de Balzac. Et pour cela, on retrouve tout de suite René-Joseph. René-Joseph, bonjour.
Bonjour. Donc, on va vous parler la rubrique ou dans notre série où nous consacrons certaines émissions, certaines chroniques à des écrivains, hein. Notamment par exemple sur la série 2015-2016, parmi les dernières c'était Georges Sand. Et donc là on va découvrir un contemporain de Georges Sand, alors là un géant de la littérature, un personnage hors norme, hein. Voilà. Donc égal à Hugo, à Flaubert, à Zola, à Chateaubriand. Alors Georges Sand est sa contemporaine, et il avait notamment, ça fait un petit lien entre les deux chroniques, les deux personnages, il avait fréquenté Nohan, hein. Mais bon, elle n'est pas à son niveau comme en tant que romancière, hein. Et, disant qu'elle est à un niveau de grand talent, bien sûr, je la situerai, c'est peut-être un peu aléatoire, enfin, je ne sais pas, Barbey d'Aurevilly ou d'autres, mais elle fut aussi une femme politique, on va dire, donc sa dimension à elle sort du champ de la stricte littérature, ou Pierre Loti, enfin, alors que, je l'ai dit, Balzac, c'est un géant, c'est la grande stature, c'est l'acteur de premier rôle, si on peut dire, par rapport à d'autres qui sont des brillants second rôle. Et donc, je l'ai dit, égal à Hugo, à Flaubert, à Zola, à Chateaubriand. Et le personnage en lui-même aussi, comment dire, c'est un personnage multiface, et qu'on a du mal d'ailleurs à définir, tant il a mille visages, hein. Donc on va commencer un petit peu par sa biographie, et ensuite je vous parlerai de la comédie humaine, parce que quand on cite Balzac, on parle de comédie humaine. C'est le regroupement de ses œuvres qu'il a effectuées lui-même, de ses divers romans, et qu'il a ensuite, il les a regroupés, en quelque sorte, il a fait une sorte de montage, on dirait, sous ce titre, la comédie humaine, parce que, eh bien, par exemple, une vingtaine de romans, enfin, et au bout, il y en a eu beaucoup plus, au moins 90 romans, parce que, il a découvert, disons, c'est une innovation peut-être, eh bien, les personnages des romans passent d'un roman à l'autre. On retrouve les mêmes personnages, hein. Et donc c'est des personnages qui sont presque plus vivants que vrais. Ils incarnent cette société du temps de Louis-Philippe, hein, du temps de ce début, notamment du 19e siècle de la Restauration, hein. Balzac avait 20 ans en 1820, ou 1821, et il est mort à 50 ans en 1848, enfin au début de 1850, voilà. Donc cette période de la monarchie, notamment de la monarchie de Juillet, du triomphe de la bourgeoisie, eh bien tous ces personnages, je répète, on y reviendra sous la définition et la découverte de ce qu'est cette comédie humaine. Il y a à peu près 2000 personnages, hein, et donc, eh bien, dans un roman, eh bien, ils sont héros, dans l'autre, ils apparaissent comme personnages de second rôle ou figurants, ils se croisent les uns les autres. Alors, on en citera quelques-uns qui sont rentrés presque dans la vie, ils ont été portraiturés eux-mêmes, ils ont eu leur buste, par exemple, il y a Eugénie Grandet, il y a, je ne sais pas, Rastignac, il y a Vautrin, enfin, et puis on les évoquera, le père Goriot, hein, et on observera un petit peu ce qu'ils signifient, ce qu'ils sont, ce qu'ils incarnent, parce que c'est des portraits, mais ce ne sont pas des caricatures aussi, ils incarnent des traits particuliers de leur temps, alors le riche bourgeois, le père indigne, ou le père au contraire qui se sacrifie pour ses filles, etc., l'ancien bagnard, enfin. Mais ils sont pas que bons ou mauvais, ces personnages, ils sont, en fait, ils sont, eh bien, ils ont une vie propre, ce sont au-delà de personnages, des personnes, ils ont les plus mauvais, les plus noirs, ils ont des éclairs de bonté, vous voyez, ils sont traversés par des mouvements, ils vivent, ils sont en mouvement, ce ne sont pas des caricatures. Alors, j'y reviendrai après, parce que je ferai deux parties, comme j'avais fait pour Saint, d'ailleurs, je ferai deux parties sur Balzac. Parce que si je dois rassembler une partie de la documentation, je pense que j'ai de la documentation par ailleurs, et ça nous permettra d'approfondir le personnage, hein, et son œuvre. Biographie. Il est né le 20 mai 1799 à Tours, donc dans la province, donc sous le consulat, hein, sous Bonaparte. Son père s'appelle François Boissa, ou Baïssa, et c'est un bourgeois, donc il est directeur des vivres, il est maire adjoint à Tours, administrateur de l'hospice de Tours. En réalité, il est originaire d'Albi, et c'est son père qui fera changer le nom vers 1783 de Baïssa en Balzac, et il ajoutera la particule, parce que par coquetterie, goût de l'aristocratie, il se fera appeler de Balzac. Et donc sa mère s'appelle Charlotte Salambier, voilà. Et elle est fille de passementier de Paris, là aussi c'est la bourgeoisie, et son père et sa mère ont 32 ans d'écart, hein. donc c'est assez considérable. Son père est athée, voltairien, on dirait aujourd'hui anticlérical, le terme n'avait peut-être pas de sens à l'époque. Et sa mère, c'est une mondaine, elle est plutôt légère, hein, voilà. Et donc beaucoup plus jeune que son épouse, c'est peut-être ce qui explique les choses. Et puis elle sera parfaitement indifférente à l'égard de son fils, hein, il souffrira. Ça sera aussi une nourriture pour son œuvre. Il y aura cette blessure de parents absents, et notamment d'une mère absente. Et donc, il est né de 4. Il a 2 sœurs, Laure, Laurence et Henri. Et Laure sera sa confidente, elle a 16 mois sa cadette. Et d'ailleurs, le prénom de Laure, elle écrira d'ailleurs après la mort de son frère une biographie de celui-ci. Ils échangeront beaucoup. Et le prénom de Laure sera un prénom symbolique, un peu un prénom fétiche. Il aura d'autres femmes du prénom de Laure, parce qu'il aura des amantes, et qui seront aussi importantes, et ce seront aussi ses inspiratrices, hein, pour son œuvre. Alors, 1799, dès après sa naissance, à 1803, il est placé en nourrice, voilà, et en 1807, donc à l'âge de 7-8 ans, jusqu'en 1813, on le mettra en pension. Il sera interne chez les Oratoriens à Vendôme. Et donc, ses parents seront totalement absents de sa vie. Il ne reviendra jamais pour les vacances. Il y restera pendant 4 ans, donc de 8 ans à 12 ans, sans revenir chez lui. Et alors là, il va se révéler comme un lecteur. Excessif, quoi. Il va dévorer toute la bibliothèque du collège, un collège de l'époque, hein, qu'on appellerait aujourd'hui lycée privé, quoi. Il lit, mais alors de façon jusqu'à la limite de la démence, hein, il faut dire. Il ingurgite des livres et des livres. En avril 1813, d'ailleurs, sa raison, il est bon élève, mais sa raison inquiète les oratoriens, les bons pères, qui donc vont le renvoyer dans sa famille, parce que il perd pied avec la réalité. On le renvoie donc chez lui, et alors il y aura entre bref intermède, 1813-1814, il sera externe au collège de Tours, et puis la famille va habiter Paris, 40 rue du Temple, dans le quartier du Marais. Et donc là, il sera pensionnaire, mais alors à l'époque c'était des pensions pas de pension de famille, mais des pensions affectées aux écoliers, aux élèves et étudiants, où il travaillait. Tout était fait pour leur permettre de bien travailler, de bien étudier. Hein. Mais ils étudiaient par ailleurs, ils étaient par ailleurs externes, hein, dans un établissement d'enseignement. Alors là, il fréquentera la pension Le Pitre, rue de Turenne, et puis la pension de l'abbé Ganser, rue de Torigny. Et là, il sera élève au lycée Charlemagne. Il aura parmi ses condisciples Jules Michelet. Et alors vers 1816, il devient étudiant, il est voué au droit, son père donc souhaite qu'il fasse du droit, il s'inscrit à la faculté de droit, mais c'est aussi un boulimique de savoir, on a vu ses appétits de lecture frénétiques, il suit des cours, je pense en auditeur libre à la Sorbonne, il fréquente aussi beaucoup le muséum d'histoire naturelle, il écoute les conférences de Cuvier, et de Geoffroy de Saint-Hilaire, ce sont des naturalistes. Et en même temps, il travaille, puisque son père veut qu'il se forme aussi sur le tas, au métier du droit. Donc il est clair, chez un avoué, enfin c'était les avocats de l'époque, il y a eu la profession a été supprimée il y a une vingtaine d'années seulement. Donc c'est vraiment de la procédure dans le quartier du Marais. Et d'ailleurs il en tirera une œuvre, il en tirera un personnage, le colonel Chabert. Ça se passe aussi dans une étude d'avoué ou d'avocat, voilà. Et parallèlement, il s'inscrit à la fac de droit, mais alors il passera le bac de droit, la première partie. En fait, c'est ce qui est devenu la capacité en droit, qu'on a appelé vers 1892, c'est ce diplôme qui existe toujours, de capacité en droit, qu'on appelle parfois l'atto sensu, disons le baccalauréat en droit, et qui permet ensuite de s'inscrire en licence, pour ceux qui n'ont pas le bac, par exemple. Voilà. Et donc il passe cette première partie, ça se passe en deux parties, en 1819, mais il abandonne après, il ne passera pas la deuxième partie, et donc il ne s'inscrira pas en licence. Donc toujours ses lectures abondantes, la philosophie, etc. Et donc vers 1819, sa décision est prise, il ne pratiquera pas le droit comme avocat ou comme notaire, mais il sera écrivain. Il a fait son choix et on va voir qu'il va se révéler comme un prodigieux créateur. Alors nous allons effectuer une pause, tout au moins un intermède non musical. Là on anticipe. On en parlera probablement dans la deuxième partie de notre chronique. Eh bien, c'est la rencontre avec celle qui sera l'une de sa dernière maîtresse, sa dernière amante, parce qu'il y a un côté très romantique, enfin quoi qu'il soit pas vraiment romantique, Evelyn Wawenska, H-A-N-S-K-A, qui est une richissime polonaise. Et donc, elle est à l'époque mariée, et donc ils vont entretenir une... C'est une lectrice. Elle a été une lectrice de sa lointaine Pologne, mais alors vraiment richissime, avec, je ne sais pas, peut-être 2000 serfs qui travaillent dans le domaine de son époux. Ils ont un grand écart d'âge avec son époux en ski, Wenceslas Wanski, et elle l'a épousé à 15 ans, sans que c'était Eve Anska. Donc elle devient Eve Anska. C'est une lectrice, elle est cultivée, elle lit les œuvres de Balzac et va s'échanger une correspondance entre eux. Et puis ils vont se rencontrer à Paris, et elle deviendra sa maîtresse, et au final elle l'épousera. Elle l'épousera, mais l'année même de sa mort. Voilà. Donc c'est cette rencontre, qui viendra ultérieurement dans notre chronique, entre à Paris... entre Ève et Honoré, qui sont incarnés par Gérard Depardieu et Fanny Ardant. Donc on les écoute.